Ce matin, dans le sermon, je vais aborder le sujet de la sagesse. Parce qu'il est évident que sans elle, nous rencontrons ou nous rencontrerons des difficultés physiques et spirituelles tout au long de notre vie. Mais comme vous le savez, l'obtention de la sagesse est le travail de toute une vie. Toutefois, Dieu la met à la disposition de ceux qui l'aiment, de ceux qui observent ses commandements et qui sont prêts à apprendre et à suivre ses voies. La sagesse et la réflexion peuvent nous protéger de bien des épreuves et des chagrins dans la vie. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous allons regarder aux 7 piliers de la sagesse et de la réflexion. C'est le titre du sermon, les 7 piliers de la sagesse et de la réflexion. Pour aborder le sujet, nous débuterons par Proverbe 3. Proverbe 3, nous allons lire les versets 21 à 26. Vous savez, lorsque nous prenons le temps de méditer sur le livre des Proverbes, nous en retirons des conseils très enrichissants. Qui peuvent, comme je l'ai mentionné, nous éviter de sérieux problèmes. Alors, Proverbe 3, versets 21 à 26, verset 21. « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. » Alors, pour pas que ça s'éloigne de nos yeux, nous devons les lire à chaque jour, que ce soit dans les Proverbes ou à travers la Bible. « Garde la sagesse et la réflexion. » Alors, il faut avoir les deux composants, si on veut. Savoir aussi réfléchir avant d'agir. Verset 22, elles seront la vie de ton âme. Et notre âme, c'est tout simplement notre vie comme telle. Et le moment de ton coup. Verset 23, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne se heurtera pas. Verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et c'est vrai, lorsque nous prenons des bonnes décisions, que nous avons réfléchi et que la sagesse nous guide, le soir, lorsqu'on se couche, c'est moins inquiétant, on a moins de soucis en tête. Verset 25, « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. » Verset 26, « Car l'Éternel sera ton assurance. » Et il préservera ton pied de toute embûche. Alors, l'Éternel est là pour nous. Lorsque nous sommes près de lui, il est près de nous, comme c'est indiqué ailleurs dans les Écritures. Comme nous allons le voir, l'obtention de la sagesse demande autant de travail que la construction d'une structure physique, telle qu'une maison, par exemple. Mais elle demande avant tout une dévotion totale envers le grand Dieu de la Bible qui nous a appelés à le connaître. Allons un petit peu plus loin dans Proverbes au chapitre 9. Nous allons lire le verset 10. Proverbes 9 et le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors c'est le premier point important pour obtenir la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors, la première clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science des saints, ce que Dieu appelle, c'est le discernement dans la réflexion. Revenez un petit peu en arrière en lisant Proverbe 9, le verset 1. Regardons Proverbe 9 et le verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Alors, on parle ici de 7 appuis, de 7 colonnes. Il existe de nombreuses façons, vous savez, de construire une maison. Les goûts et les matériaux peuvent varier en fonction des circonstances, des lieux, et les plans d'étage peuvent être différents. Mais toutes les maisons, structurellement saines, ont en commun certaines caractéristiques. La sagesse indique que pour bâtir une maison, il faut avant tout avoir une assise solide. Choisir un site à l'abri aussi des inondations, des glissements de terrain, et autres risques qu'il peut exister dans votre région. Vous aurez ensuite besoin d'un plan élaborant une solide fondation, une structure rigide également, un toit étanche pouvant supporter des lourdes charges de neige si vous vivez dans un pays nordique, une bonne isolation contre les températures extrêmes, une fenestration adéquate, des systèmes électriques et de plomberie conçus selon les normes en vigueur, et j'en passe. Ceux qui ont déjà bâti une maison savent que cela demande de la planification, des ressources et des efforts considérables. Maintenant, quels pourraient être les 7 piliers de la sagesse et de la réflexion qui soutiendraient notre maison spirituelle? Voyez le parallèle qui existe entre les deux, entre une maison physique et notre maison spirituelle. Dans les Écritures, Dieu a inspiré l'apôtre Jacques de nous donner les 7 colonnes ou les 7 aspects de la sagesse divine. Et nous pouvons voir ça ensemble dans Jacques chapitre 3, dans les versets 17 et 18. Dans Jacques 3, versets 17 et 18. Et vous savez, l'apôtre Jacques a eu le privilège de côtoyer et de voir en action, dès sa jeunesse, l'être humain le plus sage qui est passé sur la terre, c'est-à-dire son frère Jésus de Nazareth. Parce que c'était comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait Jésus de Nazareth. Alors, Jacques 3, versets 17 et 18, là où il va nous donner les 7 piliers, si on veut, de la sagesse. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Modérée. Conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, hypocrisie. Et on va voir dans le sermon aujourd'hui chacun de ces piliers que on vient de lire ensemble. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, si on veut la paix, il faut rechercher la paix. Nous allons maintenant examiner chacun de ces piliers et voir la manière dont nous pouvons les ériger dans notre vie. Et le premier pilier qui a été mentionné, c'est être pur. Être pur. Maintenant, la question est, comment pouvons-nous être purs? Le premier pilier de la sagesse exige que nous réalisions que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, être purs et innocents devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et tout ce que nous méritons, c'est la mort éternelle. Si nous n'avions pas été rachetés par le sang du Christ, nous étions condamnés à la mort éternelle. Maintenant, sommes-nous parfois fiers d'être bons et justes parce que nous sommes dans l'Église de Dieu? Que dit l'Écriture au sujet de l'idée que nous pourrions avoir d'être bons ou justes en soi? Vous savez, dans la parabole du pharisien et du publicain qui montaient au temple pour prier, dans Luc 18, on ne va pas s'y reporter, mais si vous voulez relire à la maison, dans cette parabole, dans Luc 18, le pharisien était persuadé qu'il était juste et meilleur que les autres par tout ou pour tout ce qu'il faisait. On sait qu'il jeûnait 3 fois par semaine. Il payait ses dîmes, faisait des offrandes, et il faisait probablement des offrandes généreuses. Mais comment Dieu voit-il ce genre de propre justice de quelqu'un qui se compare à quelqu'un d'autre? Pour le savoir, nous allons nous reporter ensemble à Ésaïe 64. Ésaïe, chapitre 64, et au verset 5. Nous allons voir comment Dieu voit notre propre justice. Bon, on sait que le pharisien avait cette propre justice, mais il ne faut pas se emmener au cinéma, il ne faut pas se leurrer. Nous avons tous ici notre propre justice par moment. Alors, Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Et ici, en lisant le mot crime, on a tendance peut-être à penser à quelqu'un qui a tué une autre personne, physiquement. Et vous savez, des fois, on a parlé contre une personne, on a commis un crime. On a menti, c'est un autre type de crime. On a peut-être volé quelque chose, c'est un crime encore. Alors, sans pureté, nous ne pouvons pas construire notre maison de sagesse. Mais alors, comment devenir pur aux yeux de Dieu? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Et nous allons nous reporter pour cela dans Galates 2. Galates 2 et au verset 20 et 21. Un verset que vous devriez très bien connaître. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et quand est-ce que vous avez été crucifié avec Christ? C'est lorsque vous avez été baptisé, que vous avez été immergé dans l'eau. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Christ, la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, ce n'est pas en observant la loi que nous sommes justifiés, c'est par le sacrifice de Christ. Alors, seul Jésus-Christ, vivant en nous, par la puissance du Saint-Esprit, peut nous rendre acceptables aux yeux du Père. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de reconnaître le sacrifice du Christ en notre faveur. Nous devons travailler avec le don qu'il nous a fait, la ressource inestimable de son Saint-Esprit. Je vous parlais au début que ça prend des ressources pour construire une maison physique. Mais Dieu, pour construire notre maison spirituelle, nous donne une ressource inestimable, son Saint-Esprit, pour nettoyer notre esprit et éliminer le péché de nos vies, que nous devons faire tout au long de notre vie. Et au fur et à mesure que notre nature humaine charnelle est remplacée par un caractère juste et pieux, la pureté même de Dieu commencera à se manifester dans nos vies. Comme l'a dit Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est dans les Béatitudes, dans le chapitre de Matthieu 5. Cela termine le premier pilier. Mais avant de passer au pilier suivant, je veux vous amener vers un verset spécial. Un verset spécial des Écritures que j'affectionne tout particulièrement dans Philippiens 4 et versets 8 et 9. Philippiens 4, versets 8 et 9. Et vous allez comprendre pourquoi je vous emmène vers ce passage. Cette Écriture a un lien direct avec les sept piliers que nous allons passer en revue. Nous avons déjà vu la pureté, être pur, mais vous allez voir que ça a un lien direct. Alors, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, le premier point que nous avons vu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de nos pensées. Pour que ça soit ancré en nous, dans nos pensées, pour que la sagesse de Dieu vienne en nous. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et Dieu, qui permettra que vous dormiez en paix le soir, sera avec vous. Alors, il y a dans ce verset deux points que j'aimerais souligner en rapport avec le sermon. Le premier point, c'est que le péché commence toujours dans nos pensées, qui peuvent être générées par ce que nous regardons et écoutons, qui vient du monde, qui nous entoure et qui nous souille. Alors, pour nous éloigner des tentations qui nous emmèneraient à pécher, nous devons cultiver des pensées selon le caractère de Dieu, qui sont énumérées ici dans Philippiens 4, verset 8. Le deuxième point, le genre de pensées que l'apôtre Paul nous demande de cultiver sont exactement les mêmes éléments que l'apôtre Jacques mentionne comme étant des piliers de la sagesse. Je pourrais faire la concordance, si on veut, entre les deux versets, mais avec des mots légèrement différents, mais ayant, disons, la même résonance ou la même portée. Maintenant, nous allons poursuivre avec le deuxième pilier qui est mentionné dans Jacques que nous avons lu tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'était d'être pacifique. Dans Philippiens, on pourrait dire, par exemple, que le mot « aimable » correspond à ce genre de comportement, d'être pacifique ou aimable. Et à ce sujet, Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 2, selon nous rapporter dans 1 Timothée chapitre 2. Nous allons commencer avec les versets 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Et remarquez les mots qui sont utilisés. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Versets 7 et 8 maintenant. On peut lire la fin du verset 6. « C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi. Prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Alors, nous ne pouvons pas atteindre la véritable paix sans la justice du Christ. Nous perdons la paix lorsque, dans un orgueil moralisateur, par exemple, nous insistons pour faire ce que nous voulons et non pas ce qu'on nous demande. Ou quand nous insistons pour avoir le dernier mot dans une discussion. Voyons ce que nous enseigne l'apôtre Jacques à ce sujet, dans Jacques chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 6. Encore une fois, lui qui était en bonne place pour témoigner de ce qu'il avait vu et entendu de la part de son frère aîné, Jacques 4, versets 1 à 6. Il dit ici, « D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Dans le but de satisfaire vos passions. Alors, il explique c'est quoi demander mal. C'est dans le but, lorsque nous faisons une demande, dans le but de satisfaire nos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si on aime tout ce qui se passe dans le monde, on est ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Regardez la portée de ces mots. Dieu chérit l'Esprit qu'il nous a donné à notre baptême et que nous devons entretenir jour après jour. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu fait grâce aux humbles. Là où il y a de la convoitise pour le pouvoir, pour la meilleure position et le plaisir, il y a de l'orgueil. Et il n'y a pas de paix. Nous ne pouvons pas construire notre maison de sagesse avec de l'orgueil. Il y en a payé. Nous ne pouvons pas construire notre maison de sagesse avec de l'orgueil. Il y a un esprit de dispute ou même de rancune. Nous devons nous aimer les uns les autres et aborder ceux qui nous entourent avec une humilité telle qu'elle nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il y a un passage des Écritures qui mentionne cela, et je vous laisse le chercher, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. L'apôtre Paul a expliqué à titre comment obtenir et maintenir la paix. Nous allons nous reporter un petit peu plus loin, ou un petit peu avant plutôt, dans titre au chapitre 3. Alors titre, chapitre 3, les versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, d'être quelqu'un qui apporte la paix, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Il n'y a pas d'exception, plein de douceur envers tous les hommes. On n'a pas le droit d'être rude envers les personnes. Alors, nous devrions permettre à Dieu de mener en nous les batailles que le monde nous impose. Si notre nature charnelle est attirée par les querelles, les dissensions, les questions politiques, si nous sommes toujours désireux d'entendre parler des problèmes des autres, et de les dénigrer pour nous sentir mieux, par comparaison comme le pharisien. Ce n'est pas honorable, et nous ne connaîtrons pas la paix de cette façon-là. Versets 9 à 11 maintenant, toujours dans le titre 3, versets 9 à 11. Et voici les recommandations que Paul faisait à titre, et ça s'applique à nous aujourd'hui. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Ah non, tu peux faire ça, la journée du sabbat. Non, tu peux pas faire ça. Voyez-vous, ce genre de discussion-là, chaque personne répondra de ses actes devant Dieu. Car elles sont inutiles et vaines, verset 10. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Pour certains, vous savez, la paix ne viendra qu'après avoir parcouru le dur chemin de la correction ou de la guerre, malheureusement, qui s'en vient, de toutes les calamités qui vont frapper notre monde. Alors, comme le Christ nous l'a enseigné, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voyez-vous la merveilleuse promesse? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous trouvez tout ça dans le sermon sur la montagne. Maintenant, le troisième pilier. Être modéré ou doux. dans le livre aux Philippiens, on pourrait dire aimable, ce qui mérite aussi l'approbation, ce qui est honorable. Ce sont des choses qu'on peut lier ensemble. Dieu aime ceux qui ont un esprit doux et modéré. Nous allons le voir dans Philippiens au chapitre 4. Nous allons le reporter à Philippiens 4, les versets 5 à 7. Philippiens 4, versets 5 à 7. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et je me souviens que M. Appartient nous disait souvent cela. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Notre façon de parler, d'agir, notre douceur doit être connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et c'est d'autant plus vrai à notre époque que le Seigneur est proche. Remarquez le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pour être capable d'être reconnaissant envers Dieu. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous pensons souvent que les femmes sont naturellement plus douces et modérées que les hommes, un attribut qui certainement les aide à prendre soin de leur famille. Mais les Écritures nous montrent que Dieu apprécie également la douceur et la bonté chez les hommes, et qu'un homme doux n'est pas une mauviette. C'est une mauvaise perception de notre société de penser qu'un homme doux est une mauviette. Une personne douce n'est pas obligatoirement timide ou craintive. La douceur, plus que toute autre chose, est l'humilité devant Dieu. C'est l'attribut de la vraie douceur. Moïse, vous savez, comme dirigeant de la nation d'Israël au désert, était ferme, mais en même temps, fort patient. En plus, il était doux et respectueux. Par exemple, lorsque son beau-père Jéthro est venu le voir et qu'il lui a donné des conseils, il s'est montré réceptif aux conseils que son beau-père lui a donnés. Il n'a pas dit, « Hey, moi je suis le chef là, d'Israël, pour pas me dire quoi faire. » Non. Il était réceptif, il était humble. Le Christ lui-même se qualifie comme étant doux. Nous allons le voir dans Matthieu 11. Matthieu 11, versets 28 et 29. Matthieu 11, versets 28 et 29. Et c'est encourageant de voir que notre Sauveur avait cette qualité-là extraordinaire. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est important de recevoir les instructions dans le sens aussi de les mettre en pratique. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais on va trouver le repos pour nos âmes si on suit les instructions que le Christ nous donne à travers les pages de la Bible. Alors, oui, l'Écriture nous montre que le Christ, le Fils de Dieu, le même Jésus qui a chassé au moins à deux reprises les changeurs du temple et qui est décrit comme étant glorieux, ayant des yeux comme une flamme de feu dans Apocalypse chapitre 1, est doux. Il est notre exemple parfait. La patience est un attribut de la douceur souvent négligée. Et je tiens à vous le répéter. La patience est un attribut de la douceur souvent négligée. Une personne impatiente n'est généralement pas douce et humble dans ses propos. Et lorsque cette personne rencontre des épreuves, c'est souvent pire. Remarquons ce que Paul a écrit aux Éphésiens. Allons-nous rendre dans le livre aux Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il donne ensuite au verset 2, c'est quoi marcher d'une manière digne? En toute humilité et douceur, avec patience. Regardez ces qualificatifs qu'il nous faut pratiquer. Vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On n'aura pas l'unité tous ensemble si on n'est pas en paix les uns avec les autres. Une maison de sagesse n'est pas complète sans le pilier de la douceur. Pour une fois, rappelez-vous les paroles du Christ. Heureux les humbles de cœur, ou si vous voulez les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les humbles de cœur, ou les doux, car ils posséderont la terre. Maintenant, le quatrième pilier, qui était être conciliant, prêt à céder. Encore une fois, si on se reporte à Philippiens, on pourrait dire aimable et vertueux. Vous savez, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Notre maison de la sagesse ne survivra pas si ceux qui la composent ne peuvent pas s'entendre les uns avec les autres. Et Paul a expliqué l'attitude que les chrétiens sages devraient avoir les uns envers les autres. On est dans Éphésiens, allons à Éphésiens 5, pour les versets 17 à 21. Éphésiens 5, versets 17 à 21. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, Paul nous dit ici, pensez-y, réfléchissez. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Combien de gens aujourd'hui vont à des fêtes et ça finit, ils sont ivres. Et on a vu, malheureusement, un accident qui s'est produit aux États-Unis où un joueur de hockey assez célèbre et son frère ont été frappés par un chauffeur ivre. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. C'est ce que nous devons faire à chaque jour dans nos prières. C'est ce qui est dans la prière modèle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans la société aujourd'hui, de nombreux foyers sont dans la tourmente parce que les hommes et les femmes n'ont pas grandi en ayant un bon exemple. De la manière, par exemple, dont un mari et une femme doivent travailler ensemble et se comporter l'un envers l'autre selon les principes des Écritures. Et nous avons tous du travail à faire de ce côté-là. Mais comment devons-nous nous comporter? Alors, allons un petit peu plus loin dans les versets 22 à 24, toujours dans Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et est son corps. L'Église est le corps de Christ, et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Maintenant, trop d'hommes se servent du passage ci-dessus comme d'une autorisation à maltraiter leur femme, émotionnellement, voire même physiquement dans certains cas. Un homme chrétien ne doit pas agir de la sorte et il a l'obligation de créer un environnement familial aimant y favorisera la paix et la coopération, ainsi que le respect mutuel entre les membres de la famille. Maintenant, poursuivons. Versets 25 à 29. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Christ s'est livré pour l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et c'est par cette eau de la parole à chaque semaine que Dieu nous amène à nous nettoyer, enlever de nos vies ce qui nous est montré qui est mal, les comportements qu'on doit changer et les bonnes choses qu'on doit adopter. Il ne s'agit pas simplement de vider ce qui est mauvais, parce que le verre a horreur du vide, dans un sens, il va se remplir de nouveau. Alors, il faut le remplir de bonnes choses. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est le but de Christ de faire paraître à sa résurrection cette église, sans tache, irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. L'exemple d'un foyer paisible et heureux où les membres se soumettent les uns aux autres et respectent le rôle et les responsabilités de chacun constitue un modèle qui va s'étendre à toute la société dans le monde de demain. Et c'est ce que nous enseignerons dans le millénium. C'est ce que chacun de nous allons enseigner dans le millénium. Notre chrétien doit obéir aux lois des hommes, tant qu'elles ne contredisent pas les lois de Dieu, mais nous devons respecter et prier pour ceux qui occupent des postes d'autorité. L'apôtre Pierre le mentionne dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, les versets 13 à 17. Alors, soyez soumis, verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Par notre bonne conduite, on va finir par réduire au silence ces gens, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Dieu accorde une grande importance à notre volonté de céder et de respecter l'autorité. Et ça a été une des caractéristiques importantes du roi David, jusqu'à ce qu'il devienne roi, de respecter l'autorité de Saül, même si Saül cherchait à le faire mourir. En même temps, nous ne devons pas faire de compromis avec le mal, ni céder au péché. Dieu promet de nous donner la grâce et la force d'obéir à sa loi et d'en faire fructifier les fruits dans nos vies. L'apôtre Jacques l'a expliqué. L'apôtre Jacques est une source fabuleuse d'informations pour la sagesse. Jacques 4, versets 6 à 11. Jacques 4, versets 6 à 11. Verset 6. En parlant de Dieu, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu va nous élever au moment que lui a choisi. Verset 11, verset important. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Le maintien d'une attitude humble et soumise est une condition du salut. Comme l'a dit le Christ, heureux les pauvres en esprit, les humbles, les modérés, les doux, car le royaume des cieux est à eux. Je vais vous le répéter. Heureux les pauvres en esprit, les humbles, les modérés, les doux, car le royaume des cieux est à eux. Pilier numéro 5. Être plein de miséricorde et de bonnes œuvres. Être plein de miséricorde et de bonnes œuvres. Ça veut dire en même temps ce qui est écrit dans Philippiens, ce qui mérite l'approbation, ce qui est aimable. Vous savez, Dieu fait preuve d'une miséricorde et d'une patience étonnante à l'égard de ses enfants, à l'égard de l'humanité également. Et allons dans Exode chapitre 34. Exode 34, pour voir qu'est-ce que Dieu a à nous enseigner. Comment est sa miséricorde? Exode 34, les versets 6 et 7. Lorsque Moïse avait demandé à voir Dieu, alors au verset 5, dans Exode 34, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu se qualifie de Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Vous savez, quand un homme est méchant, souvent, ses enfants peuvent en souffrir pendant plusieurs générations. Mais lorsqu'un homme est bon, Dieu peut le bénir et ça va se refléter sur les générations futures. Non, Dieu, dans sa miséricorde, n'encourage pas les impénitents à persévérer dans leurs péchés, comme on vient de lire. Il intervient ou interviendra dans leur vie et dans celle de leurs enfants pour qu'ils se repentent. Cependant, parce qu'il peut attendre patiemment avant de prononcer un jugement définitif contre une œuvre mauvaise, les êtres humains impatients peuvent parfois se faire de fausses idées. Et nous allons voir quel genre de fausses idées les êtres humains peuvent se faire parce qu'ils ne sont pas corrigés rapidement. Dans Ecclésiaste, chapitre 8. Ecclésiaste, chapitre 8. Nous allons lire les versets 11 à 13. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Vous savez, c'est là un des problèmes majeurs de notre société, parce que les gens ne sont pas punis rapidement, leur cœur se remplit du désir de continuer à faire le mal. En fin de compte, ceux qui pratiquent le péché en paieront le prix. Mais nous, nous devons faire preuve d'amour envers tous les hommes, toutes les personnes, que ce soit ou non repentis de ce que nous considérons comme leur péché. Devons nous rappeler que c'est à Dieu et non à nous de décider quand et comment il traitera un pécheur. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. Si vous avez subi une injustice, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Si quelqu'un vient nous demander pardon et que nous ne pardonnons pas, nous risquons de perdre le pardon de Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 6. C'est une chose importante à se souvenir, à quel point le pardon est important, à quel point nous devons pardonner. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et vous savez, si nous ne sommes pas pardonnés, nous serons condamnés. Si nous voulons la miséricorde de Dieu pour entrer dans sa famille, nous devons être prêts à étendre la miséricorde à ceux qui nous entourent. Et nos bonnes œuvres incluront même le fait de faire du bien à ceux qui se considèrent comme nos ennemis, comme c'est enseigné dans le Sermon sur la montagne. Le Christ nous a rappelé « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le sixième pilier, être sans duplicité, ou si vous voulez, être juste. Avons-nous déjà tenté, à la fête des tabernacles, de passer du temps avec nos frères les plus riches, les plus prospères, plutôt qu'avec une veuve dans le besoin ou avec une famille pauvre? Évitons-nous les pauvres parce que nous sommes dédaigneux, nous voulons être entourés de personnes riches ou populaires. Ou dans un autre extrême, évitons-nous les riches parce que nous sommes jaloux de leur succès. Quelle est l'attitude de Dieu à l'égard de la partialité? Psaume 82. Versets 1 à 4. Un psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Y aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Dieu parle de péché lorsque nous avons la capacité de faire le bien, mais nous ne le faisons pas. Dieu est impartial. Dieu juge tout le monde selon sa loi, que nous la comprenions ou non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Trop souvent, les gens jugent sur les apparences et favorisent ceux qui semblent avoir réussi. Dieu lui regarde l'attitude et le cœur. Notre Créateur, vous savez, peut discerner nos motivations et juge selon ses critères de justice. L'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde directement au cœur. Alors, en cherchant à faire de la justice de Dieu notre guide dans la vie, nous devrions nous souvenir de l'avertissement du Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Pilier numéro 7, être sans hypocrisie, être sans hypocrisie, être vrai, comme c'est mentionné dans Philippiens. L'apôtre Paul a noté sous l'inspiration divine le danger de l'hypocrisie. Il a dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Nous allons nous reporter à 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Pour lire la suite du chapitre. Mais Paul a averti que de nos jours, dans les derniers temps, certains enseigneront des doctrines de démons. Ces enseignants mentiront, même en toute connaissance de cause, sans que leur conscience ne soit affectée. Cela signifie qu'ils proféreront leurs mensonges tout en sachant et en faisant autre chose. Ceux qui prétendent suivre le Christ ne doivent pas tromper les autres sur leurs pensées et leurs actions. L'apôtre Pierre nous exhorte à vivre dans la vérité et la sincérité. Allons voir 1 Pierre 2, chapitre 1 Pierre chapitre 2. Et versets 1 à 3. L'apôtre Pierre nous invite ici à faire des choses. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, il va nommer des choses à éliminer, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, lorsque nous avons été engendrés de Dieu. Le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous savez, les actes des hypocrites ne correspondent pas à leurs paroles. Les chrétiens connaissent les mots justes, véridiques que Dieu nous donne dans les Écritures. Mais que vont-nous faire lorsque notre vie n'est pas à la hauteur des normes que Dieu a fixées pour nous? Éviter l'hypocrisie signifie-t-il que si nous connaissons la vérité, mais que nous ne pratiquons pas parfaitement la vérité, nous devrions édulcorer les enseignements clairs des Écritures simplement parce que dans certains domaines de notre vie, nous ne sommes pas à la hauteur de la parole de Dieu? Bien sûr que non. Combien d'entre nous, en tant que parents, avons-nous donné des instructions à nos enfants pour qu'ils se comportent selon certains standards, selon une certaine norme, que nous n'avions pas nous-mêmes connues ou suivies ou atteintes? Parce que c'est la norme de Dieu et non la nôtre, nous ne pouvons pas faire de compromis. Mais notre évaluation honnête et humble de nous-mêmes devrait nous aider à traiter avec miséricorde ceux qui nous entourent, même quand nous voyons qu'ils ne sont pas à la hauteur des normes divines. Aimant la voie enseignée par le Christ, les gens voient que malgré nos imperfections, nous portons beaucoup de fruits. En nous efforçant de vivre purement, en étant des artisans de la paix, en cédant avec douceur à ceux qui nous entourent, en faisant preuve de miséricorde, mais sans partialité, et en nous conduisant sans hypocrisie. Et c'est ce que les gens devraient remarquer lorsque nous serons à la fête des tabernacles. Si nous agissons ainsi, quelles que soient les épreuves, les persécutions et les obstacles que nous rencontrons, nous pouvons nous réconforter avec les paroles du Christ. Il disait, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, toujours dans le sermon sur la montagne. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Par conclusion, pour construire une maison de sagesse qui restera debout pour toujours, nous devons bâtir notre maison sur le fondement solide fourni par Jésus-Christ. Et elle doit être construite sur le site spirituel où se trouve aujourd'hui sa véritable Église. Dieu décrit son Église comme un pilier. L'apôtre Paul a donné au jeune évangéliste Timothée une description, je dirais, éloquente de la véritable Église de Dieu. Et ça va être notre dernier passage dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée 3. Et le verset 15. 1 Timothée 3. Et le verset 15. On peut commencer pour le contexte au verset 14. 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Alors, il écrivait cela à Timothée. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Alors même que nous efforçons de construire la sagesse dans nos vies, Dieu travaille à nous construire, à nous préparer à notre avenir glorieux en tant que membre de sa famille née de l'Esprit. Notre maison spirituelle doit être soutenue par les fondations de roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Sur ce fondement, nous devons construire les sept piliers de la sagesse à mesure que nous grandissons dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Notre maison de sagesse est soutenue par un pilier central que Jésus-Christ a placé, que Jésus-Christ a mis en place lorsqu'il est venu sur la terre. Le pilier, le fondement de la vérité dans l'Église du Dieu vivant.